Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Nature sauvage et bel âge. Au programme, le cougar, le fantôme des forêts. Investir trois tendances fortes en 2023. Et comment déjouer la rédiflation. Bonne écoute.
Le cougar, fantôme des forêts. Un texte de Michael Digens, paru à l'hiver 2020-2021 dans le numéro 50 du magazine Nature sauvage. Véritable force de la nature, le cougar fascine et terrifie. Peu de prédateurs possèdent sa puissance, son agilité et sa furtivité. Sa silhouette rôdait autrefois dans les forêts de tout le Canada. Chassé pendant des siècles, le fauve a trouvé refuge dans les montagnes de l'ouest du pays. Plein feu sur le félin le plus énigmatique et féroce des forêts canadiennes. Aux grandes dames de ses proies, le cougar grimpe, saute et nage avec une facilité intimidante. Ses puissantes pattes arrière lui permettent d'effectuer des sauts spectaculaires. Il est capable d'atteindre une cible à 5,5 mètres de hauteur et de couvrir 14 mètres horizontaux en un seul bond. Juché à 18 mètres, il plonge et atterrit sans encombre au sol avant de poursuivre son chemin. Sa force musculaire est impressionnante. Un cougar de 45 kilos est apte à renverser un wapiti qui en pèse 300. À la course, il arrive qu'il dépasse 70 km/h. Sa vision nocturne, 6 fois supérieure à celle des humains, lui permet d'être actif de jour comme de nuit. La chasse. L'animal le dissimule bien, mais malgré ses aptitudes physiques étonnantes, il possède tout de même une faiblesse, ses poumons. Et oui, même s'il est très rapide, sa capacité pulmonaire limitée lui interdit de tenir le rythme longtemps. Le chasseur est toutefois un fin stratège. Contrairement aux loups qui épuisent leur proie en la pourchassant sur de grandes distances, le cougar a perfectionné l'art de la traque et de l'embuscade. Sa technique est d'une redoutable efficacité. Ses pattes coussinées étouffent le son de ses pas tandis que son aisance à ramper et à disparaître dans la végétation le rend quasiment indétectable. Une fois sa proie repérée, le prédateur la suit en silence durant de longues minutes, voire des heures. Il s'en approche jusqu'à quelques mètres et fond sur elle en un éclair. Ses pattes munies de griffes acérées l'immobilisent pendant qu'il enfonce ses puissants crocs dans la nuque de la victime, sectionnant la moelle épinière. Lorsque la proie est de taille plus élevée que la sienne, le carnivore opte plutôt pour une morsure à la gorge afin d'écraser la trachée. La mort est habituellement rapide, bien que le combat puisse durer plusieurs minutes quand la proie est tenace. Le cerf mulet et le cerf de Virginie sont sans contredit les plats de prédilection du cougar, qui dévore volontiers des proies plus menues comme le castor, le lièvre d'Amérique, le raton laveur, des gallinacés et des insectes. À l'occasion, le félin terrasse des bêtes beaucoup plus imposantes que lui, telles des orignaux. Des recherches ont révélé qu'un cougar développe sa technique de chasse tout au long de sa vie. Un jeune s'attaquera d'abord à de petites proies, progressant au fil du temps vers de plus grandes. Si le cougar est parfois obligé de céder son butin chèrement acquis à d'autres prédateurs comme le loup et l'ours noir, un adulte parviendra quelquefois à les faire fuir ou même à les tuer s'ils sont seuls. Une campagne d'élimination. Malgré sa force et son agilité, le cougar n'a pas pu éviter les balles des colons. En effet, témoin des aptitudes physiques de ce redoutable prédateur, ceux-ci n'ont pas tardé à le considérer comme une menace pour leur bétail et pour eux-mêmes. Abattu systématiquement, le félin avait pratiquement disparu de l'est de l'Amérique à la fin du 19e siècle. Le dernier spécimen aurait été supprimé au Maine en 1938. Au Québec, les derniers individus auraient été tués en 1859 dans le village de Franklin, à proximité de la frontière avec l'État de New York, en 1860 dans les bois aux alentours du Mont Saint-Hilaire et en 1863 près de Sorel-Tracy. Un cougar a été chassé en 1992 en Abitibi-Témiscamingue. Néanmoins, une analyse génétique a déterminé qu'il était issu de la captivité. Le félin est alors poussé dans ses derniers retranchements, la Colombie-Britannique et l'Alberta. Toujours perçu comme de la vermine, l'humain a continué de le chasser sans retenue. Les gouvernements provinciaux offraient même de l'argent à quiconque tuait le fauve. Entre 1910 et 1957, au-delà de 16 000 cougars ont été tués en Colombie-Britannique pendant qu'a été appliqué cet incitatif financier. En 1947, le gouvernement britanno-colombien mettait sur pied une école destinée à former des chasseurs de cougars, dont l'instructeur était nul autre que James Dewar, décrit comme le roi de la chasse aux cougars. En 1950, Dewar était fier d'affirmer que le pays était presque entièrement nettoyé. Par chance pour le félin, les primes ont été abolies en 1957 en Colombie-Britannique et en 1964 en Alberta. Depuis, la chasse est réglementée et les populations sont hors de danger. À l'heure actuelle, on évalue à 5 000 les effectifs du cougar en Colombie-Britannique, dont 600 sur l'île de Vancouver et 2 000 en Alberta. Une espèce diversifiée. Le cougar démontre une phénoménale capacité d'adaptation à différents écosystèmes et climats. Déserts, montagnes, forêts tropicales, forêts de conifères, marécages, rien n'est à son épreuve. C'est probablement une des raisons pour lesquelles il est le mammifère possédant la plus vaste aire de répartition en Amérique. Il est présent du Yukon jusqu'à la pointe sud de l'Argentine. Cette présence dans autant de régions lui a valu d'être nommée par une multitude de groupes humains. Ces 40 appellations font d'ailleurs de lui le détenteur d'un record Guinness pour l'animal comportant le plus grand nombre de noms différents, les plus courants étant lion de montagne, puma, catamount et panther. Jusque dans les années 1990, les taxonomistes classifiaient le cougar en 32 sous-espèces. En 2000, une étude génétique a établi qu'il y en avait en réalité seulement 6, dont une seule en Amérique du Nord. Puma concolore cougar. Vous écoutez « Le cougar, fantôme des forêts », un texte de Michael Digens, paru à l'hiver 2020-2021 dans le numéro 50 du magazine Nature sauvage. Un rôle écologique essentiel. Ceux qui souhaitaient l'élimination du cougar étaient loin de se douter que celui-ci assurait pourtant l'équilibre et le bon fonctionnement de son écosystème. En contrôlant les populations d'herbivores, entre autres celles des chèvres des montagnes rocheuses et des mouflons d'Amérique, le mammifère carnassier prévient le surpâturage qui nuit grandement à la végétation naturelle et aux cultures. En outre, d'éliminer les bêtes blessées, vieilles ou malades, les carcasses qu'il laisse derrière lui représentent une vraie mine d'or pour une large variété d'espèces. Les oiseaux de petite et moyenne taille se nourrissent des vers et des insectes qui y pullulent pendant que certains mammifères, accompagnés d'oiseaux de proie, viennent y prendre quelques bouchées. Enfin, le cougar freine la surmultiplication des cervidés, responsables de nombreuses collisions avec les automobiles. Homo sapiens non prévu au menu. Les archives regorgent de cas d'incidents dans les provinces de l'Ouest. En 1934, le journal Le Soleil de Québec écrivait « Des cougars font de tels ravages sur la côte ouest de l'île de Vancouver qu'un règne de terreur existe parmi les animaux domestiques, tandis que les enfants n'ont pas la permission de quitter leurs parents de peur que ces animaux féroces ne les attaquent. Heureusement, les attaques sont rares. Le cougar ne considère pas l'humain comme une proie et préfère garder ses distances. Cependant, la destruction de son habitat, la raréfaction de ses proies naturelles et l'augmentation de la présence humaine sur son territoire multiplient les occasions de rencontre et, par conséquent, les possibilités de conflit. L'Alberta ne compte qu'un seul décès, et en dépit de sa grande population de cougars, la Colombie-Britannique n'en dénombre que 8 depuis 1900. Aucun nouveau décès n'y a été enregistré dans les 20 dernières années. Entre 2006 et la mi-2020, 33 attaques y ont été signalées, dont la moitié visait des enfants. La petite taille et les mouvements rapides de ces derniers semblent en faire des proies attrayantes. En 1738, le naturaliste américain John Bartram écrivait que, face à un cougar, fuir serait un mauvais moyen d'échapper à une créature aussi agile et forte. En effet, on recommande expressément de ne pas courir ni de tourner le dos à l'animal, la meilleure riposte, bien que peu intuitive, étant l'affrontement. Il faut se faire grand, crier, lancer des objets. Si la bête attaque malgré tout, il faut contre-attaquer avec force et la frapper vigoureusement. En route pour l'Est, après un long confinement à l'ouest du pays, le cougar a repris la route vers l'Est. Des chercheurs constatent depuis quelques années ce déplacement au Canada et aux États-Unis. L'arrêt de la chasse intensive au siècle dernier a progressivement permis à l'espèce de se rétablir. Territorial et solitaire de nature, le cougar a besoin d'un espace bien à lui. Les rares fois où il est possible de le voir en compagnie d'un congénère, c'est qu'il est en période d'accouplement. Le mâle, polygame, tente de se reproduire avec plusieurs femelles. La femelle élève seule les petits pendant 18 à 24 mois. Les jeunes devront ensuite se trouver un nouveau territoire. L'accroissement des effectifs ne se traduit donc pas par une hausse de la densité de l'espèce en une même région, mais plutôt par une expansion territoriale au cours de laquelle de jeunes cougars conquièrent des zones auparavant inoccupées. L'océan Pacifique tenant lieu de barrières naturelles, ils n'ont d'autre choix que de se disperser vers l'est. C'est ainsi que les populations qui, jadis, ne se retrouvaient qu'en Colombie-Britannique et dans l'ouest de l'Alberta sont maintenant observées jusque dans l'ouest de la Saskatchewan, où une population viable de cougars est, depuis une vingtaine d'années, présente dans les Cypress Hills. On estime qu'entre 300 et 400 cougars occupent actuellement la Saskatchewan. Certains individus ont déjà pénétré au Manitoba, quoiqu'ils y soient encore fort rares. Ce félin unique poursuivra-t-il sa route et viendra-t-il veiller à nouveau sur les forêts de l'est du pays? L'avenir nous le dira. Qui sait, peut-être est-il déjà tout prêt? Après tout, le maître de l'embuscade n'a pas l'habitude de s'annoncer. C'était le cougar fantôme des forêts. Un texte de Michael Digens, paru à l'hiver 2020-2021 dans le numéro 50 du magazine Nature Sauvage.
Investir. Trois tendances fortes en 2023. Un texte de Dominique Lamy, paru dans le magazine Bel Âge. Négocier des titres sans frais de commission. Pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin 2022, les courtiers en ligne sans commission ont généré 46% de toutes les nouvelles ouvertures de compte. Ils ont été à l'origine de 30% des transactions boursières effectuées. La majorité des courtiers en ligne maintiennent une commission de 4,95 $ à 9,99 $ par transaction. Source : ISS Market Intelligence. Considérez les certificats de placement garantis, CPG. Avec la hausse des taux d'intérêt, les CPG font un retour en force. Certains termes offrent un rendement qui frise les 5 %. La Banque royale du Canada a d'ailleurs récemment dévoilé que 25 milliards de dollars ont été investis par la clientèle dans des CPG au cours des derniers trimestres. Source : highinterestsaving.ca et RBC. Optez pour des certificats canadiens d'actions étrangères, CCAE. Ces titres canadiens offre une exposition à des sociétés étrangères sans le risque associé au taux de change. Au nombre de 35, ils sont offerts à une fraction du prix de l'action sous-jacente. L'actif sous gestion dépasse les 1,3 milliard de dollars depuis le lancement il y a plus de 18 mois. C'était « Investir trois tendances fortes en 2023 », un texte de Dominique Lamy paru dans le magazine Bel Age. Comment déjouer la riduflation? Un texte de Emmanuel Grill paru dans le magazine Bel Age. Votre paquet de biscuits favoris vous semble plus léger qu'à l'habitude? Il ne s'agit pas d'une illusion. C'est probablement dû à l'actuelle vague de « moins pour le même prix ». Les consommateurs l'ont constaté. Le panier d'épicerie coûte de plus en plus cher. Et les visites au supermarché ont pris l'allure d'une véritable chasse aux aubaines pour tenter de dénicher les meilleurs rabais. Pour expliquer cette flambée, les producteurs et transformateurs invoquent l'augmentation du coût des ingrédients, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, voire les changements climatiques et la pénurie de main-d'œuvre. Plutôt que de faire grimper leurs prix, des manufacturiers ont toutefois adopté une stratégie commerciale différente, la réduflation. Ce terme, calqué sur le mot valise « shrinkflation », combinant les versions anglaises des mots « réduction » et « inflation », est défini par le Grand Dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française comme « le sous-dimensionnement d'un bien de consommation courante par son fabricant sans diminution du prix de vente ». Autrement dit, les acheteurs en ont moins pour leur argent car, pour maintenir leur marge bénéficiaire, les manufacturiers réduisent le poids, le format ou le volume du produit en le vendant au même prix. Pourquoi ne pas tout simplement augmenter le coût? Parce qu'il est prouvé que les consommateurs sont davantage sensibles à une hausse de prix qu'à une diminution de format. Heureusement, la clientèle est moins dupe des tactiques des fabricants. À cet égard, un sondage réalisé en 2021 pour le compte du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie révélait que près de 3 Canadiens sur 4 avaient constaté que le poids de certains produits avait été réduit, alors que leur prix était demeuré inchangé ou avait augmenté. Il y a toutefois moyen de déjouer les pièges de la réduflation en faisant preuve de vigilance. Deux poids, deux mesures, vérifiez avant d'acheter. Bien qu'elle ne soit pas illégale, cette pratique provoque la grogne des consommateurs qui ont l'impression qu'on se moque d'eux. Ils n'ont pas tort. D'ailleurs, rares sont les compagnies qui se vantent d'avoir recours à une telle pratique. Hormis quelques exceptions comme Ferrero, Nutella, et Mondelez International Oreo, qui ont annoncé avoir réduit la taille de certains emballages, les manufacturiers se font plutôt discrets à ce sujet. Et pourtant, les exemples de réduflation se multiplient. Mentionnons les bouteilles de jus d'orange qui passent subtilement de 1,65 litres à 1,5 litres ou de 1,75 litres à 1,54 litres ou encore les grands formats de yogourt qui ne contiennent plus que 650 grammes au lieu de 750 grammes. Signalons également les emballages de fromage qui ont fondu de 60 grammes pour passer à un contenant de 400 grammes et ceux de bacon qui ne contiennent plus que 500 grammes au lieu de 750 grammes. Quant aux sachets de craquelins et aux biscuits, ils ont étrangement maigri. Mais ce n'est pas tout. On trouve également moins de barres tendres, de sachets de gruaux instantanés ou de pâtes alimentaires dans la boîte de carton qui a pourtant conservé la même dimension qu'auparavant. Les articles de soins personnels et d'hygiène n'y échappent pas non plus, remarque Jacinthe Cloutier, professeure adjointe au département d'économie agroalimentaire et sciences de la consommation à l'Université Laval. Il peut y avoir moins de papier mouchoir dans une boîte ou de feuilles dans le rouleau de papier de toilette, souligne-t-elle. Les crèmes hydratantes, shampoings, détergents à lessive et assouplisseurs subissent aussi une cure minceur. Vous écoutez « Comment déjouer la riduflation », un texte de Emmanuel Grill paru dans le magazine Bel Âge. Emballage, des subterfuges créatifs. Si les fruits et les légumes frais, ainsi que la viande et les poissons non transformés, ne sont habituellement pas touchés par la réduflation, de nombreux produits emballés en font l'objet. Car c'est là que réside le nerf de la guerre, donner l'illusion que la quantité reste la même en utilisant toutes sortes de subterfuges. Sarah-Ève Levac, avocate et conseillère juridique à Option Consommateurs, en dénombre quelques-uns. Par exemple, les manufacturiers modifient la forme d'une bouteille pour la rendre plus large que haute, ou ils ajoutent des creux autour du goulot ou sous la base. Un gros bouchon crée également l'illusion que le contenant est plus imposant, note-t-elle. Chez certaines marques, les moules en plastique protégeant les biscuits dans leur emballage ont été modifiés afin d'en contenir moins. Et dans les sachets de croustilles, on insuffle de l'air pour laisser croire qu'il est tout aussi rempli qu'auparavant. Un couvercle ou un fond plus épais d'un grand pot de yogourt, des dentelures ou des bulles sous les bouteilles en plastique sont d'autres techniques pour réduire le contenu de quelques dizaines de grammes ou de millilitres. La forme du produit peut aussi être modifié pour en diminuer la quantité, comme une tablette de chocolat comportant moins de carreaux ou présentant plus de renflements. Autre tactique souvent utilisée, celle de l'échantillon. Durant une période promotionnelle, le fabricant offre en cadeau un petit format de détergent ou de shampoing, par exemple, alors que le format original qui l'accompagne en contient moins que d'habitude. À l'achat suivant, il n'y a plus d'échantillons gratuits et on obtient donc moins de produits pour le même prix, signale l'avocate. Les consommateurs devraient aussi être attentifs lorsqu'on fait la promotion d'un nouvel emballage plus pratique, plus écologique ou plus facile à manipuler. Dans ce cas, il y a fort à parier que si le prix est resté le même, la quantité, elle, a diminué. Aiguiser son flair, les réflexes à cultiver. La meilleure méthode pour détecter la réduflation est de consulter le prix au poids ou au volume, voire l'encadrer pour en savoir plus. En effet, le prix unitaire sur l'étiquette apposée sur le produit peut induire la clientèle en erreur car il ne permet pas d'effectuer une véritable comparaison. Au Québec, les détaillants doivent obligatoirement indiquer les prix au poids ou au volume sur l'étiquette placée sur la tablette, précise Sarah-Ève Levac. Ces informations sont inscrites en petits caractères, mais elles valent leur pesant d'or. Grâce à elles, on peut savoir hors de tout doute si 100 ml de sauce tomate de la marque X coûtent moins cher que ceux de la marque Y, et ce, même si les emballages diffèrent. Rappelons toutefois que ces précisions ne sont fournies que sur l'étiquetage en magasin et qu'elles n'apparaissent pas dans les circulaires. Jacinthe Cloutier recommande également, lorsque c'est possible, d'opter pour des produits en vrac. Pas d'emballage, donc pas de réduflation. Et du même coup, on évite le gaspillage. Choisir des marques génériques, souvent moins chères, est aussi une solution, dit-elle. Même si la tendance a récemment commencé à changer, les marques maison ont habituellement peu recours aux tactiques de réduflation. Les applications, qui comparent les produits au volume ou au poids, aident aussi à faire des choix judicieux. Tout comme photographier les produits qu'on achète souvent. L'image fournit par la suite un point de comparaison utile si on a l'impression que l'emballage contient une plus petite quantité. Selon Sarah-Ève Levac, on gagne aussi à se tenir au courant de la hausse des prix de l'alimentation. En sachant, par exemple, que les prix des produits de boulangerie ont grimpé de 13 % mais que le pain tranché qu'on achète, lui, n'a pas augmenté, ça devrait nous inciter à vérifier si le poids mentionné sur le sac est toujours le même. Ces nouvelles habitudes exigent bien sûr de la discipline, de l'organisation, et elles rendent nos achats à l'épicerie plus complexes. Il faut rester à l'affût, dresser des listes de prix et mettre en place des points de repère. Mais le jeu en vaut assurément la chandelle. C'était « Comment déjouer la réduflation », un texte de Emmanuel Grill, paru dans le magazine Bel Âge.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.